Voilà, bonsoir, bonsoir. Vous avez devant vous l'atelier lecture au grand complet. Ce soir, on est là pour vous présenter des extraits de deux livres, de deux auteurs que vous connaissez, surtout le premier parce que Eric de Luca en a déjà fait quelques lectures de ses œuvres, et Mario Rigoni-Stern, que vous avez sans doute déjà entendu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. On va vous lire donc des extraits, et vous allez voir que ce sont deux lectures tout à fait différentes et qui vont vous emmener dans des ambiances un peu particulières et tout à fait opposées. Alors, nous allons commencer par Eric de Luca. On va vous présenter avant les auteurs.
Donc, je vais vous présenter brièvement Eric de Luca. Eric de Luca, originellement prénommé Enrico, est né à Naples en 1950, dans une famille bourgeoise appauvrie par la guerre. Il grandit dans le quartier populaire de Montedidio, qui donnera son titre à l'un de ses romans les plus célèbres. Il part faire ses études à Rome, alors qu'éclate la révolte de 1968. Il se joint aux luttes ouvrières des années 70 et intègre le mouvement d'extrême gauche, Lotta Continua, dont il sera dirigeant de la fin des années 60 au début des années 70. Il n'achève pas ses études et multiplie les métiers manuels, ouvrier spécialisé, maçon, conducteur de camion jusqu'en 1995. Il reste encore aujourd'hui très engagé politiquement aux côtés de mouvements altermondialistes et des migrants. Ainsi, il est inculpé en 2013 pour incitation au sabotage du chantier de construction de la ligne TGV Lyon-Turin. Il sera relaxé en 2015. Alors maintenant, son œuvre, son premier livre ne paraît qu'en 1989, Non ora, non qui, pas ici, pas maintenant. Il obtient le prix Femina en 2002 pour justement Montedidio et le prix européen de littérature en 2013. Il est autodidacte en anglais, en français, en russe, en yiddish et en hébreu ancien. Il a traduit de façon littérale plusieurs textes de l'Ancien Testament. Nombre de ses livres sont des réflexions sur sa lecture de la Bible, comme « Noyau d'olive » en 2002 ou « Au nom de la mer » paru en 2006. Une autre passion d'Eric de Luca, c'est l'alpinisme. Ainsi, beaucoup de ses écrits se passent à la montagne. Par exemple, sur les traces de Nive, paru en 2005, ou dans le poids du papillon, paru en 2009. Dans le poids du papillon, il s'agit d'un chasseur qui est confronté au roi des chamois. Dans Impossible, dont nous allons vous lire quelques extraits, paru en 2019, il évoque aussi son engagement politique. Tous ses livres ont été traduits dans plus d'une trentaine de langues, donc c'est dire sa notoriété. Maintenant, l'autre auteur dont nous allons vous lire quelques extraits, il s'agit de Mario Rigoni-Stern.
Mario Rigoni-Stern naît en 1921. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il est intégré dans un régiment de chasseurs alpins. Il est fait prisonnier par les Allemands, refuse de se joindre à la République sociale italienne et est transféré en Prusse orientale. Il s'en évadera et rejoindra son village natal Asiago, en Vénétie, le 9 mai 1945. Devenu employé du cadastre dans ce même village, il se consacre à l'écriture à partir des années 1970. Montagnard amoureux de sa région d'origine, de nombreux écrits relatent la nature, les animaux, dont les nouvelles de ce soir extraites du livre des animaux. On peut citer aussi le poète secret et les saisons de Giacomo. Son roman, Le sergent dans la neige, Il sergent né la neve, écrit en 1953, lui permet d'obtenir le prix Varezzo de la première œuvre et d'être découvert par un public bien plus large qu'au début. D'autres écrits sur ses souvenirs de guerre suivront. Entre deux guerres et autres histoires, En attendant l'aube et autres souvenirs. Un livre associera les beautés de la nature et ses souvenirs de guerre, Sentier sous la neige. Un très fort lien d'amitié fraternelle le lira à Primo Levi. En atteste cette lettre qu'il lui adressera le 12 avril 1987. « Cher Primo, cette lettre, je te la dois au nom de notre vieille amitié. Je t'avais écrit après avoir lu ton dernier livre, je te disais mon accord fraternel avec ton essai si intelligent et si terrible qui avait réveillé beaucoup de souvenirs douloureux au point de m'ôter le sommeil. Un jour de printemps, tu es arrivé avec Lucia. On a regardé ensemble les ruches de mes abeilles, je t'ai montré les rayons d'où le miel coulait goutte à goutte, la reine, la couvée, les faux bourdons, les ouvrières occupées à leurs travaux. On prit ensuite un sentier proche de la maison pour aller voir les chevreuils. Tu m'interrogeais sur les fleurs, les arbres, les champignons, les animaux. En retour, Primo Levi lui adressera un poème. Il l'adressera bien sûr à Mario, mais aussi à Nuto. Il faut dire un mot sur Nuto. Nuto, c'est Benvenuto Revelli, un résistant qui a fait partie d'une association Giustizia e Libertà après la fin de la guerre et qui a beaucoup œuvré pour l'Italie dans le domaine des lois sociales. Donc il écrit à Mario. Primo Levi leur adresse un poème donc qui s'intitule « A Mario e a Nuto ». J'ai deux frères qui ont une vie très remplie derrière eux. Nés à l'ombre des montagnes, ils ont appris l'indignation dans la neige d'un pays lointain. Ils ont écrit des livres fort utiles. Comme moi, ils ont soutenu la vie de la Méduse qui ne les a pas pétrifiés. Ils ne se sont pas laissés pétrifier par la lente chute de neige des jours. Donc maintenant, première lecture du début du livre de Eri De Luca, Impossibile.
Impossible.
Impossible.
Oui. Impossibile, comme vous voulez, ou impossible. Je vais vous présenter donc le thème de ce livre. Impossible est un dialogue entre un jeune magistrat et un mis en examen, un homme déjà âgé, donc De Luca a supposé. Cet interrogatoire fait suite à un accident de montagne dans le Val Badia, situé dans les Dolomites. Un homme s'est tué en chutant de la vire de Ventillac, passage délicat face au vide. La victime n'était pas seule. Un autre homme se trouvait sur cette vire au moment de la chute. Cet homme appelle les secours. Il se retrouve placé en détention, car on le soupçonne d'avoir assouvi une vengeance. Les deux hommes avaient été engagés dans la lutte révolutionnaire, mais ensuite, l'un avait dénoncé les autres. Impossible est donc l'échange entre le mis en examen et le magistrat, qui cherche à faire avouer un crime pour lui prémédité, car il ne croit pas une coïncidence. Voilà les premières pages de ce dialogue incisif et tout en nuances qui va se poursuivre tout au long du livre. Toutefois, entre les interrogatoires, l'inculpé écrit à une femme. Nous terminerons les lectures en vous lisant une de ses lettres. Un style complètement différent, évidemment, du dialogue qu'on va lire, Françoise et moi, on va se passer la parole. Françoise va être l'inculpée, et je vais faire le rôle du magistrat. Pour ça, vous voyez, j'ai mis du blanc, du rouge, et puis aussi du noir, pour être dans les couleurs. Donc, on commence. Et c'est moi qui ouvre, parce que c'est le magistrat qui commence à parler en premier. Reprenons du début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne sur la photo que je vais montrer?
Je ne la reconnais pas. J'oublie les visages, à plus forte raison, des années plus tard. Je ne pourrai que répéter ce que j'ai déjà dit.
Ce n'est pas sûr.
Vous pouvez ajouter quelques autres choses que vous n'aviez pas dit avant.
Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogée par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir.
Je comprends. Je vous demande quand même de revenir sur cette journée.
Je me réveille tôt, vers 5 heures. J'attends 7 heures pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents et je sors. Je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles en dehors des sentiers battus pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bandiarak en Val Badia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Campana Alpina au col de Loccia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'étais étonnée de voir quelqu'un plus haut qui me précédait.
Un homme ?
Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Il y a ceux qui font semblant de lacer leurs chaussures, de regarder le panorama ou de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix. Il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos.
Vous voyez, cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange ? Vous préférez derrière, suivre ? C'est intéressant, continuez.
Je suis jusqu'au sommet où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cet homme. Il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux ainsi. Je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation. Pendant que ma tête passe de pensées légères à d'autres plus solennelles, à des images, couplets de chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis, mais je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivée au bout du sentier, au col de Loccia, où commence le haut plateau de Fanès, sans avoir à dépasser qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire du Bandiarak, au pied de la paroi verticale du Pis Conturines. C'est un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait dans cette direction m'a agacée.
Elle se hâtait ?
Oui, oui, oui. Du col de Loccia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction, à pas plus lent. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment. Puis je l'ai retrouvé à nouveau au début du passage sur la via. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau.
Et vous l'avez revu combien de temps après ?
Pas plus de 2 heures après. Il marchait craintivement.
Craintivement, c'est-à-dire ?
Il s'appuyait à la paroi. Sur ce sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis.
Je vois. Continuez.
Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration, de regarder fixement par terre, un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit, parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire du Bandiarac, il faut faire les bons pas à côté du précipice. J'ai avancé ainsi encore une heure environ. Je suis arrivée à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé, balayaient des portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer, je devais rebrousser chemin. C'était sans regret, mon but est de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose au fond. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement. Puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé en 20 minutes. Ensuite, je suis revenue sur mes pas. Et maintenant, depuis quelques jours, je répète ces journées pour la troisième fois.
Et vous n'étiez pas ensemble ?
Non, je vais seule en montagne. De toute évidence, cet homme faisait la même chose.
Vous n'avez pas entendu crier ? Une personne crie quand elle tombe.
Je n'ai pas entendu crier, sinon je me serais dépêchée pour essayer de porter secours.
Qu'emportez-vous dans votre sac à dos ? Des jumelles et quoi d'autre ?
Un bon bout de corde, des mousquetons, au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté. Une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger ni à boire.
Pas de boussole ?
Je ne vais pas en mer.
Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps ?
Oui, par le journal.
Une étrange surprise, n'est-ce pas ? Vous trouviez sur le même sentier, peu fréquenté, 40 ans après le procès ?
Lui ou un autre, il se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs. C'est une question de chance.
Des accidents, décidez celui-ci en est bien un, et du ressort de mes fonctions. La coïncidence éveille les soupçons.
Coïncidence ? Une des innombrables qui se produit autour de nous et que nous ne remarquons même pas. Mais dans ce cas précis, le mot coïncidence ne vous suffit pas ?
Pour décider qu'il s'agit d'un accident, je dois parvenir à exclure qu'il y a une rencontre intentionnelle entre vous et un homme qui autrefois était un collaborateur de justice, qui a contribué à l'arrestation d'un bon nombre des vôtres, vous compris, et qui a purgé pour ça une longue détention.
Vous êtes disposé à parler d'accident du travail quand il s'agit en réalité d'homicide de travailleurs, poussé au-delà des limites de leur résistance et des conditions de sécurité. Vous qualifiez d'accident les dizaines de milliers de blessés et le millier de morts dus au travail manuel, chaque année en échange d'un salaire. Mais ici, vous doutez du mot accident. Quand il se rapporte à une activité périlleuse, ludique, avec des risques pris délibérément, en toute conscience du danger couru. Ce sentier de la vire est difficile. Est-ce moi qui ai amené cet homme là-haut ? Est-ce moi qui l'ai porté sur mon dos pour le jeter dans le vide ? Ceux qui vont là tiennent compte du précipice. Votre question devrait être, dans de telles conditions, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? La réponse est personne. Nous n'avons pas de commanditaires. Ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant. Oh, drôle de jeu de mots, n'est-ce pas ? La montagne, immobile par nature, est un mobile. C'est exactement ça. Elle attire à elle. Chacun a ses propres raisons d'y aller. La mienne est de tourner le dos à tout, de prendre de la distance. Je rejette le monde entier derrière moi. Je me déplace dans un espace vide, et aussi dans un temps vide. Je vois comment était le monde sans nous, comment il sera après. Un endroit qui n'aura pas besoin qu'on le laisse en paix. Là-haut, je suis un étranger, sans invitation et sans bienvenue. Mais la guerre d'il y a 100 ans n'a pas marqué les montagnes. Les rochers détachés par les explosions ont roulé, comme à toute autre époque, sans laisser de signature. Un livre d'un alpiniste français a pour titre « Les conséquences de l'inutile ». Ah, inutile, Cet adjectif a une valeur pour moi. Dans la vie économique, où tout repose sur la partie double, donner, avoir, sur le profit et l'utile, aller en montagne, grimper, escalader, est un effort béni par l'inutile. Il n'est pas utile et ne cherche pas à l'être. J'ai fait et je fais encore des métiers manuels en tant que salarié. Ils comportent des dangers obligatoires, eux aussi comptabilisés dans la fiche de paye sur la ligne des indemnités de risque. En montagne, je prends mes risques, libre de tâches imposées, ludiques et parfaitement inutiles. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? La beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l'air, comme le rivage avec la mer. Dépenser gratuitement mes énergies là-haut me récompense. Ah, pauvre de moi, je me laisse transporter en parlant de montagne.
Et vous me transportez moi aussi. Je ne connais pas ces endroits et je comprends mal ceux qui y vont. Je vous prie de continuer.
Vous croyez que je me suis laissé aller à raconter par lassitude, par une défaillance de mes défenses? Vous vous trompez. J'ai appris par mon corps que lorsque je suis fatiguée, je redouble d'attention et de lucidité. Mais je ne souhaite pas revenir sur cette journée.
Nous progressons. Vous expliquez des choses intéressantes à un profane de la ville. Vous est-il déjà arrivé d'appeler un numéro d'urgence?
Non, c'est la première fois.
C'est la première fois que vous êtes témoin d'un accident en montagne?
Tout seul, oui. Les autres fois, l'alerte était déjà donnée.
Et quel effet cela fait-il d'assister à l'accident en montagne?
On essaie tout de suite de comprendre comment ça s'est passé, s'il s'agit d'une erreur ou d'un cas de force majeure. On essaie de s'identifier, puis viennent les commentaires et discours sur la montagne qui tue. Mais il s'agit d'un milieu sauvage, indifférent à nous. Ce n'est pas un terrain de sport, un parc d'attractions. On y va sans laisser passer. On avance sur un terrain où aucune expérience précédente ni aucun équipement ne garantissent de revenir sain et sauf.
Et la peur? Je ne vous ai pas entendu parler de la peur.
La peur est utile. C'est d'ailleurs une forme de respect et même de révérence due à l'immensité du lieu qu'on traverse. La crainte est le préliminaire de la concentration. Elle n'entrave pas les mouvements, elle en augmente la précision. Il s'agit de peurs bien définies, qui ont des noms et des occasions. Elles demandent de la perspicacité et un esprit de décision. Elles sont l'alarme du corps, qui sait quand il est en danger. Sur la vire de Bandiarac, les mains ne sont pas utiles. On monte et on descend le long de petites bandes d'un sentier à peine tracé par le passage de chamois, près de profonds ravins. Ah, mais je parle ici de choses qu'il faut éprouver, qui ne peuvent être transmises par une explication. Oh, maintenant, c'est assez duré pour moi.
Je vous demande de poursuivre votre récit.
Oui, je vois. À moi, il me reste le choix de ne pas continuer.
Vous voulez faire une pause, prendre un café?
Non, merci, je vais vous arrêter. Votre technique consistant à faire répéter jusqu'à épuisement a atteint son but. Je suis épuisée.
C'est votre décision. En ce qui me concerne, s'agissant d'un cas de suspicion d'homicide camouflé en accident, je dois vous placer en garde à vue.
Je suis en état d'arrestation.
Vous pouvez faire appel à un avocat de confiance. Vous en aurez un nommé d'office.
Une interruption.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va passer à un autre auteur, justement à Mario Rigoni Stern. Je vais vous lire une nouvelle extraite de son livre des animaux. La nouvelle, c'est « Chevreuil à la guerre ». En septembre 1944, les fascistes et les Allemands commencèrent les grands ratissages qui, d'après leur plan, devait purger les Alpes des partisans. Et chez nous aussi commença le grand bal, pendant lequel même les vieilles femmes dormirent avec leurs souliers bien lacés aux pieds. Un matin, ils remontèrent de la plaine par toutes les routes. Ils bloquèrent tous les carrefours, se disposèrent en éventail sur les voies militaires de la Grande Guerre et, des deux côtés, on commença de tirer. Dans la Buchenwald, les explosions et les coups de feu se relayaient de clairière en clairière, de forêt en forêt. Ils s'espaçaient, se poursuivaient, s'éteignaient ici pour se rallumer là, au milieu de bruits de course, de souffles haletants, d'appels, d'ordres hurlés d'un côté, de signaux et de paroles murmurées de l'autre. Pendant toute la journée, toute la nuit et encore le lendemain. Lino était chef d'escouade, mais ce n'était pas vraiment un chef. Et son escouade n'était pas non plus une véritable escouade. C'était quatre gars de village. Et Lino les guidait, parce qu'il connaissait bois et montagnes depuis l'époque où, enfant, il allait à la chasse avec les chiens de la maison, par tradition et pour satisfaire une vieille passion. Mais ce matin de septembre, ce fut l'ouverture d'une toute autre chasse. C'était eux les chevreuils et les Allemands les limiers. Et quelle poursuite après cette aube qui s'accompagna de tirs de mortier, de rafales de mitrailleuses. Aussi le commandant leur dit « Dispersez-vous dans la forêt et retrouvons-nous demain dans les montagnes au nord. » Ils étaient là, en train de reprendre leur souffle et de calmer les battements de leur cœur, quand un bruit de branche, un drôle de pas extrêmement léger, les fit braquer leurs armes et mettre le doigt sur la gâchette. Ce n'était qu'un petit chevreuil. De ceux qui étaient nés au printemps, il était seul, c'est-à-dire sans sa mère. Ils retinrent leur souffle. Le petit animal les fixa de ses yeux humides et ils purent constater et comprendre son effroi. Mais au lieu de partir ou de s'éloigner d'eux, il vint se coucher juste à côté de Lino, qui était à plat ventre avec sa mitraillette en joue. Lui, il savait comment traiter les animaux. Il faisait partie de ces gens qui non seulement mettent en confiance les animaux domestiques, mais n'inspirent pas de méfiance aux bêtes des bois. Il parla à voix basse, en murmurant tout doucement. « Et où vas-tu ? Tu as peur ? Allez, reste tranquillement ici. Sois gentil, ne bouge pas. Il y a des Allemands qui se baladent dans le bois. » Puis, toujours très lentement, sa main gauche lâcha le canon de la mitraillette et commença de le caresser doucement sur le cou. Le petit chevreuil se laissait faire tout en tremblant de tous ses membres. Il le sentait sursauter sous sa main chaque fois qu'une grenade éclatait ou qu'une rafale traversait le bois. Après, ce fut le silence. Ou plus exactement, les hommes cessèrent de provoquer des bruits non naturels. Et dans la forêt, les voix habituelles revinrent. Le vent dans les plus hautes branches, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes. « Et c'est justement vers toi qui es chasseur que ce petit animal devait venir !» murmura un camarade. « Et tu vois pas, il est blessé !» Si, j'ai vu, une balle lui a sectionné une patte, il a dû être pris dans une fusillade. Et Dieu sait ce qui est arrivé à sa mère. Le petit chevreuil se laissait toujours caresser. Lino se mit lentement à genoux et après s'être levé, il ligatura le moignon sanglant avec le foulard rouge qu'il avait autour du cou. Il se passa encore un certain temps. Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être moins. C'était sûrement l'après-midi. Le soleil commençait à descendre. Le bruit des explosions montait de la vallée et l'on voyait s'élever de la fumée d'une ferme qui brûlait. « Et maintenant, il faut qu'on parte, » dit Lino. « Essayons de rejoindre sans bruit la lisière du bois, et quand il fera tout à fait nuit, nous traverserons la vallée pour rejoindre le nord des montagnes, comme nous l'a dit le commandant. Là, on retrouvera les autres. Ils s'avancèrent prudemment, à une certaine distance les uns des autres. Ils restèrent en file indienne, tant qu'il fit jour. Lino était le dernier, suivi du petit chevreuil qui trottinait sur ses trois pattes saines. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, pour attendre qu'il fasse noir, la petite bête vient se coucher au pied de Lino. « Il est amoureux de toi, » dit en plaisantant un camarade. « Eh non, il m'a choisi comme mère adoptive. Les animaux savent à qui se fier. » Au milieu des myrtilles, de la mousse du sous-bois, Lino vit le jaune soutenu des girolles. Il se baissa pour en ramasser une poignée. Il tendit ensuite au chevreuil dans le creux de sa main. Celui-ci les flaira en bougeant les narines, puis il leva la tête pour le regarder. « Allons, mange ! Et je ne peux pas te donner de lait. Mange des chanterelles !»« Je n'ai jamais vu de chevreuil qui mange des champignons, » dit l'un des camarades. « Et moi si, » répondit Lino. « Ils sont très friands de bolets, de girolles, de cèpes. Tu ne t'en es jamais rendu compte ?» Le chevreuil renifla les chanterelles, puis en prit délicatement une et se mit à la mâcher au grand étonnement des trois partisans. Voilà la rencontre qu'ils firent pendant le grand ratissage du mois de septembre d'il y a 40 ans. Quelques soirs plus tard, près du maigre feu du bivouac, ils lui trouvèrent un nom, Chiaro, parce qu'il avait le poil clair, plus blond que roux. Il répondait à ce nom en agitant sa petite queue qu'il portait toujours haute. Mais il n'accourait que lorsqu'il était appelé par Lino, en qui il reconnaissait son maître et qu'il suivait partout, même lorsqu'un ordre l'éloignait de la base. En très peu de temps, la blessure de la patte fut parfaitement guérie. Aussi, parce que Lino la lui avait soignée avec la résine qui coulait des sapins. Par la suite, et dans bien des cas, Chiaro leur fut précieux, car, avec ses sens beaucoup plus réceptifs que ceux des hommes, il arrivait à signaler les dangers bien à l'avance. Une odeur, un bruit insolite lui faisait tresser les oreilles avec méfiance, avertissant ainsi le groupe de Lino. Il était réellement devenu une sorte de guetteur. Il arrivait même à distinguer les signaux des partisans. Et c'était trop drôle de le voir sautiller sur ses trois pattes, derrière ce jeune gars, hirsute, armé comme un brigand. L'hiver suivant fut dur, éprouvant. Ils ne restèrent pas tous sur les hautes montagnes. Bon nombre d'entre eux redescendirent dans les villages où ils tentèrent de survivre dans la chaleur des fenils en attendant le printemps. En février, la faim se fit sérieusement sentir. Le ravitaillement devint difficile. Ne fût-ce que parce que la neige révélait les traces que les partisans essayaient d'effacer en marchant à reculons ou en traînant sur la neige une grosse branche de sapin. Tout devenait plus simple quand il neigeait, mais un jour, le commandant dit « Si ce beau temps durait, il serait obligé de manger Chiaro, qui était devenu grand, avec un pelage sombre, et se nourrissait d'écorce de citise alpin ou de bourgeons de salicaire. » Lino protesta, envisagea de partir avec lui dans un endroit secret. Mais, tout compte fait, il préféra apaiser la faim de ses camarades en posant des pièges pour capturer lièvres et faisans de montagne. Vers la fin du mois d'avril, vinrent les grands jours de la liberté. Et après tant de coups de feu, on pouvait enfin marcher et chanter sans angoisse. Chiaro suivait toujours Lino, qui arriva chez lui le 27 avril, sans tambour ni trompette, tout seul, presque en douce, parce que la fête qu'on lui aurait faite aurait certainement effrayé l'animal. Il l'enferma dans l'étable et partit de son côté faire la fête. Ils restèrent ensemble pendant toute une année, mais en 1946, en juillet, quand vint le temps des amours et qu'il entendit l'appel des chevreuils dans la forêt, Lino les libéra Chiaro. En demandant aux chasseurs et aux braconniers d'alentour de ne jamais tirer sur un chevreuil auquel manquait la patte antérieure droite. Alors, on reprend l'interrogatoire.
Reprenons l'interrogatoire en présence de l'avocat de la défense commis d'office. Puisque vous n'avez pas désigné un de confiance, vous connaissiez l'homme de la vie de Manteuil, car c'est lui, le collaborateur de justice, qui vous a dénoncé il y a pas mal d'années.
Je n'accepte pas le sens de collaborateur de justice.
Quelle est votre définition ?
Une personne qui dénonce ses propres camarades dans le but d'obtenir une réduction de peine, une remise en liberté, pour moi, c'est quelqu'un qui trahit.
Et s'il s'agissait en fait de repentance active, il ne partageait plus la ligne politique de l'organisation. Il s'est livré lui-même au terme d'une démarche d'autocritique. La dénonciation de ses propres camarades devenait un acte libératoire, qui pouvait même offrir une solution à ceux qui étaient encore dans l'impasse. J'ai rencontré des personnes de votre organisation qui ont reconnu que leur arrestation les avait sauvés du pire. Cette démarche ne vous semble pas plus humaine et plus complexe que le simple verbe de trahir ?
Celui qui dénonce ses propres camarades reste enfermé dans le verbe trahir. Ce que vous appelez repentance, c'est une abjuration, un reniement encouragé par différents avantages, du programme de protection au changement de nom, à la remise en liberté. La repentance est du domaine de l'intime et ne se fait pas en commerce de soi-même. Elle concerne la conscience de celui qui passe par là et non les documents judiciaires. Pensez bien que j'ai eu le temps de réfléchir sur le sujet, avant vous et davantage.
Vous restez irréductible.
Ah, irréductible à quoi ? Parce que je n'adjure rien ? Et que je ne me frappe pas la poitrine comme un pénitent. C'est le pénitencier qui s'est chargé de me la frapper et de me réduire à la condition de détenu pour un paquet d'années. J'ai payé ma dette sans aucune remise. C'est la peine assignée qui a été irréductible, pas même un seul jour. Je refuse votre définition qui prétend juger l'opinion que j'ai de ma lutte politique.
Dans le langage courant, l'irréductible est celui qui s'entête à tenir pour légitime le crime commis. C'est synonyme d'irrécupérable, si vous préférez.
Oui, oui, c'est un langage qui vous appartient. Vous à qui la condamnation purgée ne suffit jamais. La peine sert à payer sa dette et à être quitte avec l'État. Mais vous, vous voulez faire des créanciers à vie. C'est vous qui êtes des irréductibles. Vous qui continuez au-delà des barreaux à exiger des désaveux de nos vies.
Ah, elle est bien bonne celle-là. De nouveau, vous inversez les choses. Vous ne le faites plus avec des armes, mais avec les mots. Je vois que vous restez fixé sur votre passé, dans une totale absence d'autocritique.
Les discussions et les critiques sur le passé ont eu lieu entre nous autres de ce temps-là. Elles ont produit des livres et des documents. Dans ce contexte, entre vous qui accusez et moi qui repousse les accusations, l'autocritique est déplacée. Une autocritique serait ici un mea culpa et une demande de circonstances atténuantes. Entre vous et moi, il n'y a rien à atténuer. Vous me gardez en prison et moi, je m'y adapte. En outre, vous n'êtes pas en âge d'avoir assisté à ce qui s'est passé à l'époque et je ne vous tiens pas pour un interlocuteur légitime sur les événements de ces années-là.
Parce qu'une autocritique de votre parcours constituera une demande de circonstances atténuantes ?
C'est le cas de la parabole du fils prodigue qui revient repenti pour être de nouveau admis dans sa famille. Je suis devant vous en tant qu'inculpé et non en tant que pénitent. Je garde pour moi les autocritiques.
Il est vrai que je n'ai pas vécu ces années-là. Mais je me suis documenté sur les procès. Vous considérez encore cet homme comme votre ennemi ?
Prendre connaissance des événements d'une époque à travers les documents judiciaires, c'est comme étudier les étoiles en regardant leur reflet dans un étang. Vous employez le mot « ennemi ». Il y a eu une époque dans ce pays où ma génération politique a été traitée comme une ennemie publique. Des magistrats se consacraient entièrement à notre répression. Ils employaient tranquillement le terme de lutte. Ils s'asseyaient sur la chaise des juges en continuant à être des ennemis. Il n'est question d'aucune inimitié personnelle ici. Il en a existé une publique et elle nous concernait tous.
Je vous demande de nouveau si cette personne tombée dans la vire du Bandirac était votre ennemi.
Cette époque est passée depuis des dizaines d'années. Les conséquences pénales sont passées et pour moi, les sentiments d'hostilité sont morts. Je reste intransigeante dans mes affections et en politique, mais je n'ai plus d'ennemis. Le temps des ennemis s'est terminé au siècle dernier.
Que pensez-vous alors de l'homme qui vous a dénoncé ?
C'est un étranger, quelqu'un qui s'est retiré d'une communauté. Il y a belle lurette que je n'ai plus entendu parler de lui.
Que pensez-vous alors du hasard qui vous a placé sur le même chemin, le même jour et à la même heure ?
C'est une coïncidence.
Définition incomplète pour moi. Coïncidence volontaire ou fortuite ? Pour moi qui suis chargée de l'enquête, la coïncidence est un indice. Si on lui attribuait la valeur numérique d'une probabilité qui aurait le chiffre 0 suivi d'une virgule et d'autres zéros. C'est pourquoi je cherche une autre explication. Que vous soyez trouvés là tous les deux par hasard est tellement improbable que cela en devient impossible.
Impossible, c'est la définition d'un événement jusqu'au moment où il se produit. Vous aurez beau mettre tous les zéros que vous voulez, la statistique et vous ne pouvez nier les coïncidences. Elles existent en dépit des zéros. Quantité de découvertes en ont été la conséquence et aussi quantité de désastres. Une personne passe sur un pont au moment où il s'écroule. Tant d'autres y sont déjà passés juste avant. Les coïncidences sont une constante. Elles n'ont rien de rare. Que nous nous soyons trouvés, cet homme et moi, à quelques centaines de mètres de distance, au même moment, dans un endroit désert, est pour moi un hasard évident et inexorable. En tant que personne présente sur place, je sais que votre impossible s'est produit.
Nous reviendrons sur la distance d'une centaine de mètres. Nous ne parlons pas ici de la rencontre fortuite de deux hommes. Nous parlons de la suite de cette rencontre. Du fait que l'un de vous deux est tombé dans le vide.
Rencontre ? Je dément qu'une rencontre ait eu lieu. J'ai vu un homme de loin, j'ai constaté qu'il était tombé, j'ai téléphoné au 112. C'est comme ça que vous êtes au courant de ma présence. Si j'avais passé mon chemin, évité de donner l'alerte, je ne serais pas ici à être obligée d'en parler. Mais en montagne, on doit s'entraider. Il pouvait être encore en vie, une intervention pouvait le sauver à temps. J'ai fait mon devoir et ça s'est transformé en acte d'accusation.
Votre coup de fil peut être aussi interprété différemment. Une fois le corps identifié, le passé de l'homme révélé, nous aurions eu pour le moins vérifié la liste des clients dans les lieux d'hébergement de la famille. Nous aurions trouvé votre nom en téléphonant. Vous avez cherché à vous mettre à l'abri. des soupçons de plus. Vous savez que vous êtes facile à repérer. Vous êtes peut-être le seul allant en montagne avec des sandales. Un témoin aurait pu se rappeler vous avoir vu ce jour-là, et à cette heure-là, sur le sentier qui mène au col de la Loggia. À propos, pourquoi marchez-vous avec des sandales ?
Quelle importance !
Je crois que ça en a.
Bon, très bien. Ce ne sont pas des sandales de plage. Ce sont des chaussures techniques qui tiennent bien le pied. J'ai commencé à en porter parce que dans les chaussures fermées, je perdais mes ongles en descente. Avec les sandales, ça n'arrive plus. Elles ont aussi l'avantage de renforcer le pied et d'éviter les entorses. Sur les passages rocheux, je serre les sangles réglables et je peux aussi escalader.
Et on ne glisse pas avec ?
Oh, ça dépend de la façon dont on pose le pied sur les pentes raides.
Je ne comprends pas grand-chose. Revenons à votre coup de fil au 112. Pourquoi l'appeler ? Pour vous manifester spontanément avant d'être identifié et interrogé. Et puis, comme de nouveaux défis, vous faites savoir que vous étiez là. Votre présence déclarée est une sorte de revendication, déguisée en accident. Permettez-moi de vous citer un vers de Fête de Racine. « Ma vengeance est perdue, s'ignore en mourant que c'est moi qui le tue. » Vous avez voulu le faire savoir à lui comme à nous. Vous avez joué sur plusieurs tableaux par ce coup de fil.
Vous admettez que vous ne connaissez rien à la montagne. Si cet homme courait un danger, je lui aurais porté secours, même en sachant qui il était. C'est ainsi qu'on fait et qu'on doit faire. Il n'existe pas d'amis et d'ennemis quand il faut porter secours. Vous ne savez même pas comment est fait cet endroit.
Je m'informerai sur les possibilités d'effectuer une reconnaissance. Aujourd'hui, il existe des moyens qui permettent de faire des relevés à distance. Nous utiliserons un drone.
Oui, ça suffira pour un examen sur un petit écran. Mais vous ne saurez pas comment on se sent à cet endroit. C'est comme ça que se font les enquêtes maintenant. Avec les caméras de surveillance, avec l'ADN. Mais on a perdu l'habitude de chercher la vérité des faits sur le terrain. Prenez donc un drone pour l'envoyer au sommet de l'Everest, mais ne me dites pas que ça vous suffit et que vous n'avez pas besoin d'aller sur place.
Et à votre époque, comment se faisaient les enquêtes ? On utilisait les empreintes digitales ?
Ah, à mon époque, vous vous contentiez du baratin d'un traître. Et vous arrêtiez en masse sans vous soucier d'aucune vérification.
Laissons ça de côté. Je fais l'effort de vous croire face à l'urgence. L'instinct de porter secours se déclenche. Mais là, il n'y avait pas d'urgence. Vous étiez deux sur cette vire, friable. C'est comme ça qu'on dit. Et l'un des deux jette l'eau dans le vide après l'avoir suivi et rejoint. S'il y a eu affrontement, la trace s'efface toute seule après, avec le vent. À ce stade, la seule explication de ce que vous définissez coïncidence est un homicide prémédité. Le mobile existe et j'ai l'intention de le prouver. Profitez de votre avocat commis d'office qui est un professionnel capable et consciencieux.
Je n'en ai pas besoin. Il s'agit d'une affaire entre vous, représentant de l'État, et moi. Je suis vieux et j'en ai déjà vu pas mal. Cette situation ne m'inquiète pas. Je n'ai ni femme ni enfant qui m'attendent à la maison pour rougir d'un proche inculpé d'homicide. Que ce soit un homme âgé qui vous le dise, va vous sembler bizarre. Moi, j'ai plus de temps que vous. Non seulement celui qui est déjà passé, mais celui d'à présent. J'ai du temps à revendre dans cette cellule. Je l'utilise pour vous devancer. Vous progressez péniblement comme si vous étiez forcé de me suivre en montagne. Allons au tribunal, au procès. C'est le bon endroit pour un citoyen qui se confronte à l'État. Ici, nous sommes encore dans les vestiaires. Vous pouvez en enlever un peu de liberté de mouvement, mais pas la liberté qui est dans mes raisons et mes convictions.
Je ne dirai pas qu'il s'agit d'une affaire entre vous et moi. Il n'y a rien de personnel. Je représente le ministère public et je mène des interrogatoires pour des raisons administratives.
Oui, je sais. Mais pour moi, vous êtes l'État. et j'affronte ici une affaire personnelle, un tête-à-tête avec les institutions. Mais cet avocat que vous avez nommé pour ma défense...
Ne confondez pas les administrations. L'avocat était nommé par le parquet.
Si cet avocat peut m'être un temps soit peu utile, qu'il présente une demande de libération provisoire.
Voilà le deuxième interrogatoire. Et il y en aura quatre après, je ne me souviens plus combien. Mais... Non, il y en a plein.
Dans le micro.
Mais enfin, on ne lit pas, hein, je veux dire.
Voilà, on ne lira pas le reste, on vous laissera...
Dans le suspense.
Dans le suspense, voilà, avec le plaisir de finir et de lire le livre pour savoir s'il est coupable ou s'il est innocent. C'est pas tout.
Voilà. Alors, on va revenir à Mario Rigoni-Stern et vous lire une autre nouvelle. Cette nouvelle, c'est « Le Merle amoureux » lu par Marie-Thérèse.
C'était l'été, il y a 9 ans. Un jour, je vis arriver chez moi l'un de nos artisans qui avait émigré à Turin. Il avait avec lui une grande et belle cage en bois toute neuve, et dedans un merle. Il me racontait que c'était des gamins de son quartier qui le lui avaient apporté après l'avoir ramassé dans les jardins d'Italia Sessentune, parce qu'il était incapable de voler et qu'un chat était en train de l'attaquer. Après cela, il l'avait gardé dans sa boutique de restauration de meubles, où il s'était aussitôt mis à chanter avec ardeur. Quand il était revenu au village pour les vacances, il avait emporté le merle dans une boîte en carton pour ne pas payer le billet de train, et c'était là qu'il avait acheté une cage. Et maintenant, il ne savait pas à qui le laisser, sans compter qu'à Turin, disait-il, l'air n'est pas bon. Si tu le veux, je te le laisse. C'était un beau merle au plumage noir anthracite, avec un bec jaune-orange vif. À mon avis, il devait avoir 2 ans, peut-être 3. Et son incapacité à voler était due au fait qu'il avait vécu en cage depuis qu'on l'avait enlevé du nid. Peut-être, me dis-je, qu'ici je pourrais le libérer. Quand il était gamin, j'avais déjà élevé Tarin, Pinson, Mésange, Chardonneret, Bec Rouge, et en automne, avec 2 copains, après l'école, au lieu de faire nos devoirs et d'apprendre nos leçons, nous allions voir les tonderies où l'on capturait les oiseaux. Bref, j'avais acquis une certaine familiarité avec la gent ailée, et ma dernière cage, je l'avais ouverte au printemps, un jour de printemps, il y avait 10 ans. Elle avait été la prison d'une mésange noire à l'œil vif et joyeux que je gardais dans la cuisine et qui me tenait compagnie, surtout pendant les matinées d'hiver. Quand j'allumais la lumière et que je préparais le feu pour le café, ce n'était que battements d'ailes et chants jusqu'à ce que je lui donne des graines de sénevée, franchement écrasées, et que je change son eau. Après avoir mangé et pris son bain, elle était tranquille. Je la nourrissais aussi avec des tagliatelles et de fines tranches de pommes. Les mouches, elles venaient me les enlever des doigts. Quand la neige et le vent battaient aux fenêtres et que la cheminée hurlait, je lui disais « Où veux-tu aller par ce temps ?» Où pourrais-tu être mieux qu'ici ? J'approchais la cage de la fenêtre et elle battait des ailes en faisant « ziti, zit, zit » comme elle voulait confirmer mes paroles. Mais quand le printemps explosa de tout le bois et de toute la terre et toute la terre furent mal d'amour et que Rouge-Gorge, Tarin, Grive, Fauvet, Mésange à longue queue, Grimperot et Merle firent la fête à la belle saison. Je vis une mésange noire, était-ce une femelle, se poser sur la cage que j'avais accrochée au balcon. Alors j'ouvris la porte à ma mésange et je m'éloignai. commencer, elle resta immobile en regardant ce vide ouvert sur des sapins et les bouleaux. Ensuite, elle tourna la tête vers moi, ouvrit les ailes et s'envola sur l'arbre voisin où on l'attendait. Elle becqueta parmi les rameaux et les bourgeons, se balança la tête en bas, revint, se posa sur la cage, se mit à chanter à gorge déployée. Et pour finir, cette mésange des sapins s'envola vers le bois avec sa compagne. C'était le 20 mars, jour de la San Benedetto. Je pense qu'elle n'est pas allée très loin, car j'avais l'impression de distinguer son chant. Quand l'hiver revint, elle me manqua beaucoup. Allumer le feu et préparer le café avec le chant de ma mésange noire n'avait rien à voir avec le fait de faire les mêmes choses sur fond de radio. Et voilà qu'on m'avait fait cadeau d'un merle, citadin, qui ne savait pas voler. Était-il au moins un bon chanteur? Je commençais par le nourrir le plus naturellement possible. Je fouillais la terre du potager pour lui chercher des lombris gras et roses. Je soulevais les pots de géranium pour lui attraper des scolopendres. Je lui apportais les araignées qui faisaient leur toile entre le tas de bois et le balcon. Quand les baies mûrirent, je lui offris myrtilles, sorbes et sureaux. Il commençait à me connaître, moi, et à connaître les autres personnes de la maison. Quand je m'approchais de la cage, il ne battait pas des ailes de peur et ne pépiait pas, mais immobile sur son perchoir, il attendait un bon morceau. Il ne chanta pas beaucoup cette année-là, mais chacun sait qu'après le 15 août, presque tous les oiseaux s'arrêtent de faire des trilles. La mue automnale sembla le faire beaucoup souffrir, et pour le soutenir, je lui donnais alors des petits morceaux de pois cru. Après, quand ce nouveau plumage fut au complet, il devint très vif et à l'époque où les oiseaux de son espèce quittent les montagnes pour voler vers les plaines, les villes, il devint très inquiet et dans la cage, je le voyais battre des ailes comme pour s'exercer au vol. Je ne me décidais pas à le libérer parce qu'il servirait presque certainement de cible à un chasseur, une fin qui ne m'aurait pas plu. Pendant tout l'hiver, il se tut. Je l'installai au rez-de-chaussée où se trouve mon établi de menuisier, le matériel des abeilles et mes outils. Quand il faisait beau, je pondais la cage au trou d'un épicéa ou sur le soleil au balcon et lui s'ébrouait joyeusement dans le sable de la rivière que je lui renouvelais chaque jour. Un matin de février où je rêvais, au printemps dans mon lit, j'entendis venir d'en bas un léger gazouillement. Il n'y avait aucun doute, c'était lui, le merle Marco, je l'avais appelé comme ça, qui s'était rendu compte que les jours grandissaient et que ce phénomène lumineux éveillait en lui l'instinct amoureux. Au fur et à mesure que les jours allongeaient, son chant s'amplifiait et en mars, il devint plein et vigoureux. Après le premier babillage qui précédait le jour et la blancheur de l'aube, il attaquait ses mélodies et me chassait du lit. Je suspendais sa cage sur un arbre tourné vers le levant ou au balcon côté jardin et il me tenait compagnie dans mes travaux du matin, que j'interrompais de temps en temps pour l'écouter ou lui apporter un verre de terre. Cela continua pendant de nombreuses saisons, et les habitants des fermes voisines attendaient et écoutaient son chant. Ceux qui passaient sur la route s'arrêtaient souvent pour l'entendre. Et lui semblait s'amuser à lancer d'abord un sifflement pour attirer l'attention, et ensuite seulement il attaquait son solo, telle une flûte claire et puissante, mélodieuse et variée. Certaines fois, on avait l'impression qu'il chantait sans reprendre son souffle. Il en oubliait même de manger, et quand arrivait le mois d'août, le moment de s'arrêter, il avait beaucoup maigri. Les années et les mues lui avaient apporté quelques plumes blanches et le sommet de sa tête était également chenu. En 1938, il avait commencé par les deux remiges extérieures et les timonières correspondantes. Puis chaque mue lui avait ajouté une plume blanche de chaque côté. « Grand-père, me disait mon petit-fils, le merle Marco est en train de devenir comme toi. » Mais cette année-là, il avait chanté plus que jamais et plus longtemps. Un jour de ce mois d'octobre lumineux, il avait achevé sa mue et il était superbe dans sa nouvelle robe noire brodée de blanc. J'avais pendu sa cage à l'endroit habituel et comme de coutume, j'étais descendue au village. Quand je revins, peu après, je ne me sentis pas sa présence. Inquiet et presque angoissé, je montai sur une pierre pour regarder dans la cage. Elle était vide. Au fond des peines, des plumes et du sang, un barreau de bois avait été brisé. Était-ce une belette ou un rapace? Non, c'était sans doute un chat, l'un de ces chats qui reviennent sauvages parce qu'ils ont été abandonnés par leur maître.
Oui. Alors, une dernière nouvelle de Mario Rigoni Stern, Orage de printemps, lu par Jean-Étienne.
Avant de lire la nouvelle, juste réparer une petite erreur. Je vous ai présenté tout à l'heure la relation amicale qu'il y avait entre Mario Rigoni Stern et Primo Levi, et j'ai évoqué un troisième personnage, Benvenuto. Ça y est, je retrouve. Révélé. Oui. J'ai une photo, je crois que je dois vous la présenter, j'ai oublié de le faire, c'est juste pour garder en mémoire. Voilà. Je voulais réparer cette petite erreur. Donc la nouvelle Orage de printemps. Comme chaque matin, l'équipe de bûcherons était partie avant le jour. Le village dormait, et ce n'est que lorsqu'ils arrivèrent tout en haut, sur la crête de la colline, qu'ils entendirent sonner les cloches de l'aube. Après avoir déposé leurs sacs, ils commencèrent le travail. Chaque sapin à abattre était marqué au pied d'un numéro que les gardes des eaux et forêts y avaient imprimé avec leur marteau. Et ceci, d'après le plan économique de la commune, de cette parcelle forestière, et pour cette année-là, on pouvait tirer 300 mètres cubes de bois, et l'on avait évidemment choisi des arbres adultes qui avaient déjà accompli leur cycle de développement. Le bruit de la tronçonneuse rompait le silence du bois, et quand il s'arrêtait après deux coups donnés avec le dos de la scie sur le point fixé dans l'entaille, on entendait le fracas de la ramure du sapin qui tombait, et comme ça pendant des heures, jusqu'au milieu de la matinée, quand venait le moment de casse-croûte. Pendant cette pause, on entendait revenir les bruits habituels des bois, la famille des mésanges, les écureuils qui jouaient sur les branches, le bourdonnement des insectes et l'appel des chevreuils. D'après certains signes, on pouvait aussi savoir quelle heure il était et le temps qu'il ferait. Ainsi, quand ils entendirent l'engoulevent chanter en dehors de ses heures habituelles, quelqu'un dit « L'engoulevent appelle l'eau. Aujourd'hui, il y aura de l'orage. » Ils reprirent le travail avec entrain et continuèrent jusqu'à midi pour une longue pause. Sur un espace dégagé, ils allumèrent un feu et quand les pierres qui l'entouraient furent brûlantes, ils y mirent à griller de grosses tranches de polenta, puis, avec des branches en guise de fourchette, ils firent rôtir la saucisse et le fromage. Et pendant ce temps, le minestrone chauffait dans les gamelles noircies par la fumée. Pour manger, ils se mirent à l'ombre à l'intérieur du bois. Dans l'air, l'odeur de la polenta et de la saucisse se mêlait à celle de la résine qui suintait des arbres fraîchement décortiqués et découpés en tronçons de 4 mètres. Après, le dos contre les troncs, ils fumèrent en silence. Qui fumait la pipe, qui des cigarettes de tabac râpé, et deux d'entre eux, les deux plus jeunes, s'endormirent allongés sur une brassée de feuillage, la tête posée sur leur veste pliée en guise d'oreiller. Non loin de là, on entendait le piétinement d'un chevreuil et de sourds grondements venaient de l'autre bout de la vallée. L'orage arrive, dit l'un de ceux qui fumaient en regardant le ciel. S'il ne s'évanouit pas en route, dans une demi-heure, il sera ici. Ils écoutaient le chevreuil, l'orage au loin, la respiration des compagnons qui dormaient, et brusquement des gouttes tombèrent alors qu'il y avait encore du soleil. Un coup de tonnerre sec réveilla les dormeurs. Je vous l'avais indiqué que l'engoulevent ne sent pas le jour, et maintenant il faut chercher un arbre touffu qui nous protégera de l'eau. Ils regardaient tout autour d'eux et se décidèrent pour un sapin, pas très gros, mais dont les branches fines et serrées n'attiraient pas la foudre. Ce sont toujours les sapins argentés ou les mélèzes qu'elle choisit. Si l'eau n'était pas venue brusquement, ils auraient pu rester au sec là-dessous pendant au moins une heure. Ils rassemblèrent leurs outils et se serrèrent sous l'arbre. L'eau ruisselait à travers les branches, les éclairs et le tonnerre déchiraient le ciel. Des moucherons presque invisibles attaquaient la peau suante et salée en faisant encore plus mal que les guêpes. Il vaudrait mieux couvrir la tronçonneuse, sans ça on aura du mal à la faire démarrer. Il me semble que le dernier arbre qu'a décortiqué Nardi a donné de beaux morceaux d'écorce, dit le plus vieux des quatre. « C'est moi qui vais la chercher, cette écorce, » répondit le plus jeune, et il bondit sous le déluge avec sa veste tirée sur la tête. Il atteignit le sapin qui se lavait tout nu sous l'eau, ramassa en vitesse deux larges morceaux d'écorce et repartit aussitôt vers ses compagnons qui le suivaient du regard. Mais à mi-chemin, ils le virent s'arrêter dans une touffe de fougères courbée par la pluie, puis reprendre sa course en criant quelque chose qu'ils n'arrivèrent pas à comprendre à cause du fracas de l'eau et du tonnerre. En arrivant, il posa les écorces sur la scie et sans chercher à s'abriter, il cria en direction de ses compagnons qui maintenant pouvaient l'entendre « Venez, venez voir, là dans la clairière, il y a un chevreuil qui vient de naître. Venez m'aider. » Les trois autres sortirent à leur tour sous l'orage et le suivirent en courant. Lorsqu'ils arrivèrent dans la trouée, ils virent au milieu des fougères le petit animal presque sans vie, battu par l'eau qui faisait tomber sur lui des brins d'herbe, des aiguilles de pin et des pétales de fleurs rouges. Il avait les yeux grands ouverts et ne se rendait pas compte que le monde où il avait débarqué depuis quelques minutes n'était pas fait que d'orage. L'un des bûcherons se pencha pour le ramasser et le mettre au sec, mais celui qui l'avait découvert le premier l'arrêta. « Ne le touche pas, » hurla-t-il. « S'il prend ton odeur, la mère l'abandonnera. Elle ne le reconnaîtra plus. » Il commençait à grêler, les grêlons faisaient tomber des arbres strobiles et des rameaux. Le bûcheron chasseur ôta sa veste et la tint au-dessus du fan. « Allez chercher des écorces et des branches, » dit-il à ses compagnons. « Il faut lui faire un abri, sinon la tempête le tuera. » Mais où a bien pu aller la mère? Et comment a-t-elle eu l'idée de mettre bas ici, juste à côté de nous ? Demanda l'un d'eux. Elle a dû chercher de l'aide. Les animaux comprennent certaines choses. À présent, elle a peur des éclairs, et elle n'est sans doute pas très loin, reprit le plus vieux des quatre. Maintenant, ils étaient trempés jusqu'à l'intérieur de leurs souliers, et sous leur tricot de corps, sans perdre de temps, ils nettoyèrent et taillèrent en pointe quatre grosses branches. Avec la tête de la hache, ils lui enfoncèrent dans le sol autour du petit chevreuil, puis, avec précaution et dans les règles de l'art, ils fabriquèrent avec les écorces un toit bien étanche. La petite bête laissait faire. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'eau et la graine ne la frappaient plus. Mais ces éclairs, brusquement suivis d'un grand bruit de tonnerre qui résonnait dans le bois, l'effrayaient quand même un peu. Les quatre hommes retournèrent là où ils avaient laissé leurs instruments de travail. Maintenant, ils étaient tellement trempés que d'être sous les arbres ou à découvert revenait au même. Ils se mirent debout contre un gros tronc, mais les allumettes avaient également pris l'humidité dans la boîte en fer et ils eurent bien du mal à allumer pipe ou cigarette. Ils ne parlaient pas, ils regardaient le bois à travers l'eau pareil à un fond marin et ils écoutaient l'orage. Après un bon moment, l'un des hommes dit « Eh bien !» Puis, après un silence encore plus long, « Eh bien, moi je ne comprends pas ce que tu viens de faire, toi le chasseur. »« Ça ne se comprend pas, » dit le chasseur, « ça se sent. » Ils continuèrent à fumer. « Et peut-être que dans 4 ans, tu le retrouveras avec ton chien et tu l'abattras, » dit un autre. Mais oui, c'est la vie. Il continuait à pleuvoir et à tonner. Il fumait en silence et il pensait tous les quatre au petit chevreuil sous l'abri qu'il lui avait fait. Qui sait si la mère le retrouvera et si elle vivra après avoir mis bas par ce mauvais temps, dit un autre, comme pour conclure une longue réflexion. Elles sont fortes, elles, ce sont des mères, le rassura le plus vieux. Désormais, les éclairs avaient cessé, mais il continuait à pleuvoir. L'orage s'était déplacé vers l'autre vallée, et pourtant on ne voyait pas la moindre trouée de ciel bleu. Maintenant, il faut tout rassembler et rentrer chez nous. Pour être trempé, on est trempé. On ne peut pas reprendre le travail comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Attendons encore 10 minutes, la pluie est en train de se calmer. Musette sur l'épaule, ils se dirigèrent vers le sentier, mais auparavant ils s'approchèrent tout doucement de l'abri du chevreuil. Le chasseur souleva avec précaution une plaque d'écorce et regarda dessous. Le petit animal était tout pelotonné, il tremblait de froid, mais il semblait tranquille. Et il était même en train de sécher puisque son poil fumait. « Peut-être qu'il s'en tirera, » dit-il à ses compagnons, « mais il faudrait que la mère le retrouve. » Quand ils arrivèrent au village, il s'arrêta de pleuvoir et au loin, vers le lac d'où l'orage était venu, une bande d'azur apparut. « On se retrouve après le dîner au bistrot, » dit l'un des bûcherons, « et maintenant allons nous sécher. » Dans un coin, la télévision diffusait un téléfilm que personne ne regardait. Les quatre compagnons jouaient un litre de rouge à la scope. Le garde-chasse entra, salua, puis sans mot dire, il s'approcha des joueurs. Il doubla la mise et dit « J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un petit chevreuil qui venait de naître. Comment ça s'est passé ?» Ils lui racontèrent tout et après le garde-chasse commanda un autre demi-litre. « Demain matin, dit-il, j'irai avec vous. À quelle heure partez-vous ? Et si la veille la vieille l'a abandonné et qu'il est encore vivant, je le redescendrai ici chez moi. Ce ne serait pas le premier que j'élèverai à la petite cuillère avec du lait de chèvre. Le matin se leva si clair qu'on pouvait compter les arbres sur les crêtes des lointaines montagnes. Le garde-chasse monta avec les quatre bûcherons et lorsqu'ils arrivèrent dans la zone des arbres abattus, ils allèrent tous ensemble vers l'abri du petit chevreuil. Ils soulevèrent avec beaucoup de précaution les écorces posées sur les branches, mais le petit n'était plus là. « La mère a dû venir le chercher, » dit le chasseur. « Sans... » « Le nid est encore tiède, » ajouta-t-il en tâtant de la main les fougères écrasées. Ils gardèrent un instant le silence, puis, en amont, sur la hauteur du bois, ils entendirent un petit bruit de pas et de branches froissées, puis un bêlement. « Ce sont eux, » dit le garde-chasse. « Elle est venue le chercher, ils s'en font tirer. »
Et pour terminer, revenons à Eri De Luca.
Non, nous ne sommes plus dans le procès, mais une des lettres qu'écrit le prisonnier à une femme, on pense que c'est une femme qu'il aime, parce qu'apparemment il emploie des mots tout autant, mais ce n'est pas la dernière lettre, c'est l'avant-dernière, parce que dans la dernière, on aurait peut-être des indices pour savoir s'il est coupable ou pas, ou peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais en relisant au moins une fois ou deux, on a une réponse quand même. Ce n'est pas clair, mais on a la réponse. Alors, il écrit à cette femme, « Amor Emilio, je dois encore avoir une conversation avec le magistrat, et puis tout sera fini d'une façon ou d'une autre. Il semble que l'affaire intéresse les journaux. Il insiste pour que je passe aux aveux. Ce serait de la légitime défense et je serai acquittée. Il est important pour moi de savoir ce que tu en penses. Quel comportement entends-tu de moi? À ma sortie, tu m'embrasserais ou tu serais déçue? Je ne peux pas te le demander, je dois y arriver en pensant à toi. Je sors après avoir reconnu que je me suis battue avec cet homme et que je l'ai fait chuter dans le vide. Ou bien je ne sors pas, je continue à nier la rencontre, je vais au procès et je suis peut-être condamnée. Comment réagirais-tu? Je ressasse. Je ne te connais pas assez pour savoir comment tu accueillerais mes aveux. Mais je crois savoir comment tu prendrais mon refus d'un compromis avec l'accusation. Oui, je crois le savoir, tu serais d'accord avec moi. Je choisis de continuer comme je l'ai fait jusqu'à présent. Merci de m'avoir secondé dans ce choix. Si je dois aller au tribunal, je souhaite que tu ne viennes pas là non plus. le voir inculpé, avec les journalistes autour du dernier pot rouge sorti des réserves pour se venger du visage pâle. Inutile de spéculer, une chose à la fois. Aujourd'hui, le magistrat cherchait les photos. Il n'en a trouvé ni chez moi ni dans mon téléphone. Celles de mon passé n'existent pas, et les rares photos de mes parents étaient saisies au temps des perquisitions et des arrestations de masse. Elles ont été perdues. Celles de toi et moi, je les ai tirées et effacées ensuite de mon téléphone. Je les ai cachées. Personne ne doit me prendre celles de nous deux. J'ai dit au magistrat qu'il n'aimait pas le visage qui sourit dans le vide sur les photos. Ce n'est pas vrai. Ton visage me sourit même quand il est sérieux. Ton visage émet de la lumière, même dans le noir. Je t'ai tenu à l'écart des questions et des perquisitions. Sur les photos du début du XXe siècle, les visages ne sourient pas. Ils sont comme rengorgés et aussi effrayés qu'on prenne leur portrait. Quand apparaissent les sourires sur les photos? Quand devient-on des sujets désinvoltes? Avec des affiches de cinéma pour imiter les acteurs? Drôle de question. Je te les pose, peut-être sauras-tu y répondre. Bilan provisoire de cette période, j'ai perdu 2 boutons et 1 dent. Ils étaient déjà branlants avant. J'ai un peu maigri. Là-dedans, la cuisine est diététique pour décourager. Quand on me conduit auprès du magistrat, je dois tenir mon pantalon. Je traîne mes chaussures parce qu'on enlève les lacets. Ceinture et lacets sont interdits ici. Ces petits désagréments peuvent humilier, mais ce n'est pas mon cas. Ce sont eux qui devraient être gênés de mettre un homme dans cette situation. Ils n'ont pas l'air d'en être affectés, donc moi non plus. Pour les humiliations, nous sommes à égalité. En attendant, elles me rappellent que j'appartiens à un corps. Au cours de mon incarcération précédente, les magistrats venaient faire des interrogatoires en prison. Il était trop compliqué d'organiser des escortes adaptées au transfèrement des détenus dangereux tels que nous étions alors considérés, nous, les politiques. Mais à présent, on m'emmène dans le bureau du magistrat et on me ramène ensuite. Il serre mes poignets dans un instrument en fer qui remonte à des temps très reculés. Ce sont des objets de magasins d'antiquité. Avant de les avoir au poignet, j'avais cherché par curiosité dans les ventes sur Internet et on m'en proposait une paire d'occasion à un prix de 70 euros. Le personnel d'escorte me passe les fers dans la cellule et avec une petite chaîne, il m'emmène en promenade derrière eux. Quand j'étais jeune, je les trouvais lourds, mais maintenant, je suis plus entraînée. À présent, ils sont ridicules, comme si on me mettait des gants blancs. Ils servent à empêcher les prisonniers de s'enfuir, m'explique un jeune qui m'escorte et qui veut se montrer respectueux envers l'ancien. Vous avez raison, lui dis-je. Je suis un fugitif depuis des générations. J'invente que mon père s'est évadé d'une prison fasciste et mon grand-père d'une prison des Bourbons. Les époques ne correspondent pas, mais aujourd'hui, l'histoire est une discipline scolaire évaporée. Ainsi, bien menotté, j'entre dans le fourgon et je traverse la ville. Je ne la vois pas. Il n'y a pas de ville dans la petite cage intérieure. Je l'entends, les moteurs, les sons, les voix. Je suis un plongeur enfermé dans son scaphandre et je traverse un aquarium. Aujourd'hui, il y avait un peu de circulation. Il pleuvait. Les automobilistes klaxonnaient nerveusement. Leur impatience m'a fait sourire. Moi, je suis dans le temps et dans le temple de la patience pure. Sur la porte de la prison, on devrait écrire cette variante de la phrase de Dante, lue à l'entrée de l'enfer. Laissez tout impatient, vous qui entrez. C'est ce qui se passe, car en prison, le temps se passe. On vit dans une cellule comme dans les autres du temps. C'est pourquoi ces sorties menottées au milieu de la ville et de ces impatients sont une distraction. Et je me surprends à sourire. Le jeune d'escorte me regarde et hoche la tête. Il doit penser que je suis cinglé. En attendant, je ne t'ai pas remercié du livre que tu m'as envoyé au printemps. Les leçons de cinéma de Sidney Lumet. Je suis devenu un meilleur spectateur grâce à lui. Maintenant, je vois les écrans là où il n'y en a pas. La pièce qui m'entoure est un accordéon. Pendant des heures, elle se dilate et les croûtes du crépi se coupent de paysages. Je fixe 1 centimètre et il devient une vallée. Puis pendant des heures, il se referme comme un casse-noix. L'ampoule s'éteint. L'obscurité efface les choses qui m'entourent. Ainsi, les autres arrivent de loin. Dans ce moment, le choix fait ensemble, la pièce est large et je respire profondément. Donc, style complètement différent, vous voyez, de l'échange avec le magistrat. Là, on retrouve l'écriture poétique, immensément poétique de Debussy.
Voilà, nous avons terminé. Nous vous rappelons que l'atelier est toujours ouvert à tout le monde. On aimerait bien que Philippe, l'équipe, alors venez nous retrouver. Merci de nous avoir écoutés.